De nouveau, bonsoir Emmanuel Guattari.
Bonsoir.
Depuis le début de la nuit, nous avons entendu la voix de Jean Horry nous parler de la Borde, celle de Jean-Pierre Vernant nous raconter les aventures d'Ulysse, celle de Jean Rouche et à l'instant, Édouard Glissant. Édouard Glissant que vous avez peut-être connu, Emmanuel Guattari.
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer aux États-Unis, à New York, où il enseignait. J'ai eu cette chance-là, oui.
Quel souvenir gardez-vous de lui ?
Un homme extrêmement impressionnant par son intelligence et oui, c'est un homme remarquable.
Emmanuel Guattari, le programme de cette nuit continue avec Germaine Tillon, que nous entendrons au micro de Georges Walter en 1987. Pour ouvrir cette deuxième partie, vous avez souhaité faire entendre la voix de Germaine Tillon.
Et même toute une émission donc qui lui est consacrée, où elle revient sur le parcours de sa vie. Germaine Tillon, donc... qui est entrée au Panthéon, hein, mais qui était une grande femme avant cela, hein, de toute façon. Et moi, j'avais lu Ravensbrück lorsque j'étais jeune fille, et ça m'avait énormément impressionnée. Et j'ai eu beaucoup d'émotions à la voir, justement, aux projections de Jean Rouch. Elle venait à la Cinémathèque, et voilà, c'était toujours une émotion de voir cette femme. Bon, c'est bien sûr une femme extraordinaire qui a traversé des choses, enfin, avec un très grand courage, des moments de très très violents. Elle a été donc, pour des raisons, des faits de résistance, elle a été internée à Ravensbrück. Et puis, elle a traversé notre siècle. Et c'est toujours resté une femme très libre et très engagée. Et c'est vraiment quelqu'un qui est toujours... C'est toujours passionnant de l'entendre parler. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui est très posé.
Qui a une pensée très claire.
Absolument, oui. Il y a plusieurs aspects de sa vie qui m'ont touchée. Mais elle en parle dans l'émission lorsqu'elle revient donc sur Ravensbrück. Comment elle a été à la fois complètement anéantie par ce qu'elle a découvert des camps nazis et en y étant enfermée. Et elle dit qu'elle n'a été sauvée. Elle a une parole incroyable parce qu'elle dit finalement j'ai été sauvée par le hasard et l'amitié. Elle dit qu'il y a eu une conspiration d'amitié car elle a été extrêmement soutenue par ses amis. À Ravensbrück, qui ont aussi soutenu chez elle l'intellectuel qui, dès son arrivée, a commencé à se documenter pour pouvoir témoigner. Elle a tenu des statistiques, relevé des
Oui, elle avait fait un exposé incroyable à ses co-détenus avec chiffres à la pluie.
Oui, voilà, elle a enquêté sur les femmes polonaises sur qui on faisait des expérimentations, les jeunes femmes polonaises sur qui il était fait des expérimentations médicales épouvantables qu'on appelait les lapines. Elle a fait faire des photos par la résistance du camp pour pouvoir témoigner vraiment elle et son souci de chercheur a été extrêmement soutenu par ses camarades.
Et c'est peut-être même ça qui l'a sauvée. Il lui a permis de prendre distance.
Je crois que ça faisait que c'était conjugué à sa nature. C'est une femme qui avait cet esprit-là et que c'était une deuxième chair évidemment pour elle, mais ça l'a sans doute sauvée. Mais beaucoup de gens disent qu'ils sont revenus des camps vivants parce qu'ils voulaient témoigner. Moi, j'ai été très impressionnée par les livres de Charlotte Delbo, qui pour moi. Ça a été une rencontre, aussi une rencontre littéraire. Vraiment, aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. C'est un livre qui m'a renversée par sa beauté, alors que son sujet est proprement horrible, évidemment. Et elle a réussi par son style, notamment par ses styles et l'utilisation de la répétition, à vraiment rendre de façon absolument incroyable, cet absurde des tâches qui étaient demandées pour détruire les gens.
Et comprendre pour essayer de survivre.
Je ne sais pas si on peut comprendre, je ne sais pas si c'est même le propos de Charlotte Delbo, c'est un propos de témoignage, et très souvent les gens qui reviennent des camps disent qu'on ne pourra jamais les comprendre, parce que si on n'est pas allé à Auschwitz, on ne peut pas comprendre.
Germaine Tillon était, elle, animée par cette volonté, ce désir de comprendre.
Désir de témoigner, je crois, pour ce qui est de Germaine Tillon, je ne sais pas si elle a... Enfin, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'elle a essentiellement voulu démonter, comme peuvent le faire les outils des sciences humaines, démonter les machines et les systèmes. Oui, si on peut appeler ça alors une forme de compréhension.
Les expériences qu'elle a vécues ont eu un impact profond sur ses méthodes de travail et réciproquement.
On peut se le représenter, oui.
Germaine Tillon, elle qui n'avait jamais eu d'enfant, avait conseillé à une de ses camarades de déportation de choyer autant chacun de ses enfants. Elle lui avait dit, à Ravensbrück, ceux qui avaient le plus de ressorts avaient eu une enfance heureuse.
C'est très intéressant cet aspect de la personnalité de Germaine Tillon. C'est quelqu'un qui aussi peut parler de la vie. Hein, c'est pas juste une intellectuelle savante, lettrée. C'est vraiment aussi quelqu'un qui parle de la vie. Et effectivement, elle, même dans Ravensbrück, elle parle aussi de l'attachement qu'elle avait pour sa mère, avec qui elle a été déportée, et sa mère a été assassinée immédiatement. Et elle raconte de sa jeunesse et de son enfance combien sa mère les a aimés et comment cet amour pour sa sœur et elle a été fondateur et essentiel. Et oui, elle a raison. C'est vrai, si on peut avoir la chance d'avoir une enfance aimée, c'est fondamental.
En mai 2015, donc, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonioz sont entrées au Panthéon, en même temps que Jean Zay et Pierre Brossolette. On avait évoqué le nom de Joséphine Baker, une voix qui aurait pu figurer dans votre nuit rêvée, Emmanuel Guattari.
Oui, j'aurais beaucoup aimé. Je suis très touchée par le personnage de Joséphine Baker, dont on ne connaît pas toute l'amplitude. Hein. C'est vraiment une femme extrêmement engagée aussi, extrêmement courageuse, qui a fait de la résistance. Et pour moi, c'est une femme remarquable. Et je suis très peinée par les difficultés tragiques qu'elle a rencontrées à la fin de sa vie, avec les questions économiques qui l'ont vraiment accablée, et c'est très triste.
Emmanuel Guattari, l'archive suivante est le dernier volet des discours de l'histoire proposés par Raymond Bellour et Philippe Venot en 1978, intitulé « Aujourd'hui, l'historien Georges Duby ». Vous vouliez entendre Georges Duby s'exprimer sur le métier d'historien.
Oui, mais c'est-à-dire que donc, Georges Duby, un très grand historien hein, de l'époque médiévale, pour le situer, hein, et je trouve que c'est un grand privilège d'entendre Georges Duby, qui est aussi un très grand orateur. Voilà, c'est un homme vraiment qui a une parole très impressionnante, à croire que ça appartient aussi à une génération. Hein, et on n'a pas tous eu la possibilité d'aller au Collège de France. Donc c'est le privilège de la radio de pouvoir aussi offrir ses voix à tous. Et la voix de Georges Duby est remarquable, son propos est très impressionnant. Et alors dans cette émission, ce qui m'a beaucoup plu, d'abord on a un très bel extrait de son dimanche de Bouvines, c'est vraiment...
Du temps des cathédrales aussi.
Oui, voilà. Il y a les deux.
Les deux, oui.
Oui, c'est ça. Et qui est vraiment un texte littéraire. Et c'est aussi pour ça que Duby m'intéressait beaucoup, parce que cette question de l'écriture littéraire de l'histoire, moi, m'a toujours... j'ai fait des études d'histoire, donc ça m'a toujours intéressée. Et là, son propos sur la fiction est passionnant. Je ne vais pas paraphraser ce qu'il dit dans cette émission, mais il revient sur cette question de la subjectivité de l'historien, dont on ne peut pas se départir en écrivant l'histoire. Et il a une très belle phrase qui dit que ce que l'historien énonce quand il écrit de l'histoire, c'est son propre rêve.
Emmanuel Guattari, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'histoire ?
C'est un peu des rêves d'enfant. J'ai toujours énormément aimé l'histoire dès que j'étais très petite. J'ai dû faire un choix. En fait, c'est surtout ça, c'est que j'ai dû faire un choix entre des études de littérature et des études d'histoire. Et voilà, j'ai eu la chance de faire des études d'histoire passionnantes avec des...
Une période particulière ou...
Oui, enfin plutôt le monde contemporain. Moi, j'ai travaillé à l'époque sur l'Indochine, mais j'étais dans un département d'histoire qui avait été frondeur, puisque c'était le département d'histoire de Paris 7 à Jussieu, hein, qui avait été accueilli hein, par l'université, qui était un peu en réaction vis-à-vis du mandarinat de la Sorbonne. Donc j'ai eu des professeurs formidables et j'ai beaucoup, beaucoup aimé mes études d'histoire. Il m'en est vraiment resté quelque chose, dans le sens où cette question de l'écriture de l'histoire me passionne toujours autant.
Pour Duby, faire partager le travail de l'historien contribue à éveiller l'esprit critique du public. C'était pour lui presque un devoir civique de répondre à la demande du public en offrant des ouvrages pour faire connaître le travail des historiens.
Oui, c'est la question du rôle de l'histoire. Effectivement, il le répète dans cette émission. Ce n'est pas une mission de prédiction. On ne peut pas prédire Le futur, en revanche, lui, il martelait l'idée que l'histoire pouvait forger l'esprit critique et que c'était fondamental dans la formation de chacun.
À partir du milieu des années 70, Duby a montré un intérêt croissant pour les femmes, peu présentes jusque-là dans son œuvre. Il a réévalué la place, la part, le rôle et le pouvoir des femmes et a été le maître d'œuvre avec Michel Perrault d'une monumentale histoire des femmes. À la fin de son dernier ouvrage, Dames du XIIe siècle, il écrit « Forte, bien plus forte que je n'imaginais ». Faire l'histoire des femmes a peut-être contribué à changer sa manière de faire de l'histoire.
S'intéresser aux femmes en histoire, c'est déjà poser un autre éclairage sur la société et sur certains pans d'activité de la société, évidemment. L'histoire fait des choix. L'historien fait des choix et faire le choix de à une époque de ne parler que enfin de faire une histoire politique forcément laissait dans l'ombre énormément de pans de la vie sociale et c'est à partir du moment où l'histoire s'est intéressée à ces diverses activités presque du quotidien qu'on a pu aussi s'intéresser différemment à l'histoire des femmes.
D'ailleurs, Duby dit dans cette émission que la lecture d'ouvrages d'anthropologie lui a permis de mieux comprendre le Moyen-Âge.
Oui, je me souviens de cette phrase. Et c'est toujours la question de savoir comment on aborde l'autre aussi, parce que quelque part, l'homme ancien, l'homme d'autrefois, quelque part, il nous est vraiment autre, parce qu'il ne vit pas du tout dans le même environnement que nous. Et c'est vrai que les sociétés qui n'ont pas eu le même développement matériel que nous, sans doute peuvent nous proposer des situations équivalentes dans lesquelles on peut se projeter. Qu'est-ce que c'est que de devoir aller chercher de l'eau au fond d'un pré ou avoir froid ou devoir cultiver la terre pour extraire vraiment sa survie, bien sûr.
Vous vouliez dans cette nuit un historien. Duby, c'est le Moyen-Âge, mais vous aviez aussi évoqué le nom de Marc Ferraud. Marc Ferraud, c'est plutôt le XXe siècle, la Révolution russe, la Deuxième Guerre mondiale, Histoire parallèle.
Ah oui, j'ai adoré Histoire parallèle. Ça, je les ai vues toutes ces émissions. Oui. Ah oui, j'aime beaucoup Marc Ferraud. Peut-être que je ne sais pas si aujourd'hui encore les gens revoient ces émissions, mais c'est vrai qu'elles ont marqué toute une génération. Et justement, Marc Ferraud, pour cette question de l'esprit critique, en proposant des archives qui étaient manipulées par divers camps sur les mêmes sujets, c'était toujours très intéressant de voir comment on pouvait manipuler l'image.
Emmanuel Guattari, avant de poursuivre, je vous propose d'écouter la voix d'Albertine Sarrazin.
Ce sont les autres qui sont responsables de ce que vous avez fait ?
Non, ce que j'ai fait, non. Ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait toute seule. Et je n'en ai plus que la responsabilité qu'à moi-même. Enfin, de par ces fautes, j'ai vécu avec des gens qui ne m'intéressaient pas.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été quelquefois comprise ?
Oui, certainement, oui. Des gens qui m'ont beaucoup aidée.
Votre mère ?
Ma mère adoptive ? Non, elle m'a aidée, elle m'a élevée, mais elle ne m'a jamais comprise. Elle ne pouvait pas me comprendre. Elle n'avait pas mon langage, enfin, je n'avais pas le sien. Elle était trop âgée.
Elle est encore vivante ?
Elle est encore vivante.
Vous la voyez ?
Jamais.
Vous voudriez la voir ?
Oui, mais c'est elle qui ne veut pas.
Vous aimeriez la voir ?
Oui, mais elle dit qu'elle en a assez de souffrir et qu'elle ne croit plus en moi. Je l'ai trop déçue. Alors que faire ? Je peux même pas aller la voir. Je n'ai pas la possibilité d'aller dans le département où elle habite.
Si, par exemple, il vous était donné de la rencontrer, est-ce qu'il y a un mot que vous lui diriez ?
Je l'ai toujours appelée maman. Enfin, sans pour autant cesser de penser à ma véritable mère, celle que je ne connais pas.
Est-ce que dans les moments les plus noirs, il vous est arrivé de penser au suicide ?
Ah oui, je me suis suicidée. Mais je me suis toujours loupée. Enfin, je me suis suicidée après les assises. Je ris parce que tout le monde a cru que j'avais peur de ma peine, Enfin, je me suis suicidée par lâcheté. Remarquez, ça cadrait bien avec le personnage qu'on avait écrit aux assises. Mais c'est pas du tout pour ça que je me suis ouvert les poignets. C'est parce que j'étais absolument écœurée de moi tel que je me découvrais après 2 jours d'assises. Ce que je croyais, ce que les autres avaient dit. Et puis après tout, t'as plus qu'à disparaître. Cette espèce de petit monstre inconnu qui était moi, tout d'un coup, je pensais qu'il fallait le détruire. J'ai pas eu du tout le trac de mes 7 ans, qui d'ailleurs n'en étaient plus que 5 à l'époque. J'étais jugée sur le plan d'acte auquel je restais quand même moralement étrangère, quoi qu'on en ait dit, que je n'aurais certainement jamais accompli moi-même, mais dont j'ai passé pour être l'instigatrice.
C'est-à-dire que vous continuez à penser, par exemple, que vous êtes restée dans une ligne de pureté?
Oui, parfaitement, oui.
Et que vous n'avez jamais fait le mal?
Enfin, le mal, à mon sens, non. Pour moi, le mal, c'est plutôt manquer de parole ou...
Vous en voulez à quelqu'un aujourd'hui?
Non. Non, non, à personne. Absolument personne.
Lorsque vous regardez vos 2 livres dans les vitrines des libraires, est-ce que vous avez un sentiment de victoire?
Ah oui, oui. De victoire et de vengeance. Enfin, vengeance... Je ne veux me venger de personne de façon méchante, mais enfin, vous savez, c'est un peu... C'est un sentiment, je peux dire, puéril. Nanana, nanana, c'est un peu ça. Je dis, j'ai gagné, je les ai eus. Enfin, je vous dis, ce n'est pas un sentiment méchant. C'est quand même un sentiment amusé.
De victoire.
Je souris. Oui, de victoire.
Nous venons d'entendre Albertine Sarrazin au micro de Jean-Pierre Elkabbach en 1966, au Mattel, la ferme de l'écrivain du côté de Montpellier. Albertine Sarrazin était alors interdite de séjour à Paris. Albertine Sarrazin était pour vous une rencontre littéraire?
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est, par un film récent, elle a été... il y a une... Ça a permis d'attirer de nouveau la lumière sur
l'Astragale.
Oui, sur son personnage et sur elle, l'Astragale. Oui, ce film. Mais c'est vrai que ce sont des livres qui apparaissent et disparaissent. Hein, les livres d'Albertine Sarrazin. Je suis contente que ce film ait permis de
remettre en lumière.
Oui, de remettre en lumière et peut-être même de republier ces livres. Moi, je les ai rencontrés. Enfin, j'ai lu Albertine Sarrazin. J'étais adolescente et ça a fait partie des chocs littéraires que j'ai eus parce que j'avais lu beaucoup de littérature classique. Enfin, et puis quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu as lu Albertine Sarrazin? Et j'ai passé un été à lire l'Astragale. Après, j'avais lu La Cavale, La Traversière, et ça a été une révélation pour moi parce qu'elle était d'abord. Alors, il faut dire qu'elle est éditée hein, chez Jean-Jacques Pauvert, donc c'était un éditeur quand même qui avait une réputation sulfureuse et il avait choisi de l'éditer. Et surtout, c'était une femme très affranchie. Elle n'a pas un programme littéraire supérieur. Elle ne faisait pas partie d'aucune école. Elle était vraiment libre et libre dans son écriture. Et cependant, c'est une écriture pour moi de très grande qualité. Et j'ai adoré lire Albertine Sarrazin. Il faut lire ses livres. Ce sont vraiment des livres formidables. Et puis, c'était une jeune femme qui parlait de la prostitution, de sa vie de bandit, enfin, de délinquante, et de la prison surtout. Et j'ai dévoré ses autobiographies. Et donc, ça m'a fait une sorte de brèche et dans laquelle je me suis engouffrée. Et à ce moment-là, je lisais aussi la littérature américaine. Et donc, voilà, ça a été au même moment. Et c'est pour ça que j'avais convoqué... Enfin, je vous avais demandé si on pouvait avoir une émission sur Maurice Coindreau, parce que j'ai lu à cette époque ses traductions et que ça avait été pour moi un très grand passeur. Parce que,
et ça m'a fait... Nous y reviendrons.
Oui, voilà, c'était un ailleurs de la langue. Voilà, mais aussi Albertine Sarrazin, hein, parce qu'elle a vraiment une écriture vivifiante. Et
sa voix, ses propos.
Sa voix, honnêtement, je ne l'avais jamais entendue, Albertine Sarrazin. Je ne savais pas ce qu'on trouverait comme émission. Et voilà, vous avez trouvé... C'est touchant de l'entendre... C'est triste aussi parce que c'est quelqu'un qui dans sa révolte a été très marquée par son abandon et puis la relation très qui se sont coupées avec sa famille adoptive, et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais qui a rencontré l'amour, et ça c'était très beau. Il y a des passages très que j'ai lus avec beaucoup de bonheur en tant que jeune fille dans son autobiographie, quand elle tombe amoureuse de Julien, un petit malfrat
qu'elle épousera.
Oui, qu'elle épousera. Alors elle est morte très prématurément, donc ils ont malheureusement passé une bonne partie de leur relation en prison respectivement. Et à un moment donné, elle doit rencontrer, elle entend que Julien va être transféré, qu'à ce moment-là, elle va pouvoir le croiser. Et elle est désespérée parce qu'elle peut même pas cantiner, elle n'a pas de relation avec sa famille, qui l'a vraiment la renier, donc elle n'a pas de quoi se faire une beauté. Et alors c'est très touchant parce qu'elle veut absolument avoir l'air de quelque chose quand elle va le croiser, et alors elle prend du gras. Et pour se mettre de la crème, et puis elle, avec du charbon, elle se met la poudre aux yeux, la poudre à paupières, et quand elle le croise, elle est toute luisante, comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très, très charmant, son désir d'amoureuse est très, très touchant.
Emmanuel Guattari, cette nuit se poursuivra donc avec Maurice Edgar Coindreau. Il s'entretenait avec Christian Giudicelli au sujet de William Faulkner en 1971. Maurice Edgar Coindreau a été un grand traducteur et un grand passeur de la littérature américaine. Faulkner était l'écrivain américain qu'il admirait le plus. Il avait rencontré son œuvre par hasard, grâce à un de ses étudiants. Comment avez-vous découvert Faulkner, Emmanuel Guattari ?
Mais un peu, j'ai eu la chance qu'on me l'offre. on proposait des livres, j'avais cette chance-là. Et donc j'ai lu Faulkner assez jeune. Mais je vous cache pas que j'ai lu toute une littérature du Sud des États-Unis en même temps, et pas seulement les traductions de Coindreau. J'avais lu Flannery O'Connor et j'avais lu aussi Erskine Caldwell, Le petit arpent du bon Dieu. Et ça a été, parce qu'on m'a proposé de les lire et que j'y ai pris goût.
Maurice Edgar Coindreau disait qu'il avait conscience d'une trahison en traduisant.
Mais évidemment, je comprends. C'est difficile la traduction, mais pour moi, c'est du très grand art parce que il y a une réécriture, évidemment. Mais ça, c'est ça où on n'accède pas à l'autre langue, donc à l'autre univers. Donc moi, j'accepte parce que je suis comme tout le monde. Je trouve qu'il y a des traductions ratées, et ça, c'est toujours très triste pour un livre d'être mal traduit. Mais Coindreau. Moi, j'ai accédé à Faulkner avec beaucoup de plaisir. Il faut avoir le courage quand on est traducteur j'imagine, c'est un métier que je ne fais pas, hein, mais il faut prendre un certain nombre de décisions. Mais je pense que quand même, les traducteurs s'imprègnent énormément de l'atmosphère d'un livre. Et très souvent, c'est lorsqu'ils ont fini entièrement la traduction que peut-être ils remodèlent encore l'atmosphère du livre. Donc il y a un travail remarquable de passage d'une langue à l'autre. Moi, j'aime énormément les langues. Et ce passage-là est très enrichissant.
Êtes-vous traduite, Emmanuel Guattari ?
Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Mon premier livre a été traduit par une jeune femme formidable, qui s'appelle Emily Bailey, qui était une jeune poète américaine. Et nous avons beaucoup discuté autour de décisions qu'elle a prises. C'était très intéressant pour moi parce qu'il faut lâcher quand votre texte est traduit. Il faut savoir lâcher parce que il faut faire confiance à cet autre écrivain qui va écrire votre texte. Et je suis très heureuse de cette traduction.
Faulkner a longtemps été rejeté par les Américains. André Gide a dit « J'ai pensé devenir fou d'horreur et de détresse en lisant Sanctuaire ».
Mais la littérature du sud des États-Unis, Margaret Mitchell, autant on emporte le vent. C'est une littérature violente, bien sûr.
Et sauvage.
Sauvage, violente, avec toute cette ce marasme de cette société du sud des États-Unis post-guerre de sécession, voilà.
On dit que Faulkner a poursuivi la voie tracée par Joyce, ce principe d'écriture au plus près de l'intérieur d'une conscience, avec le désordre que cela suppose. Les voies et les temporalités s'enchevêtrent, les personnages ne comprennent pas ce qui leur arrive, et le lecteur pas toujours.
Il y a toutes sortes de façons de lire un livre, il y a toutes sortes de littératures, et il y a des littératures qui sont beaucoup plus dirigiste que d'autres et des littératures qui sont plus complexes, mais on le sait, Joyce n'est pas facile à lire de toute façon, mais je pense qu'on voyage dans les livres différemment et qu'on a aussi des besoins différents à différents moments. Enfin, peut-être qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'être, de ne pas être en pleine maîtrise comme ça de tout ce qu'on lit, mais enfin, moi à l'époque ça ne m'a pas tellement gênée.
Édouard Glissant a consacré un essai à Faulkner, Faulkner Mississippi. Selon lui, l'œuvre de Faulkner contiendrait en creux le non-dit du crime esclavagiste.
Mais je pense que la trace de l'esclavagisme existe encore, même dans le sud actuel des États-Unis, donc je veux bien croire que du temps de Faulkner... Et puis d'ailleurs, Faulkner, je ne sais pas s'il le dit, mais enfin, oui, ça aussi, c'est... Oui, ça paraît bien...
De Faulkner, Coindreau disait « Il est artiste et il le sait, il ne cherche pas la gloire, il ne fait point de politique, il ignore les chapelles littéraires. Il n'écoute que les voix intérieures qui lui dictent ses sombres histoires. Prêtons-leur donc notre attention, sans nous inquiéter davantage si elles lui viennent du ciel ou de l'enfer. »
Effectivement, je pense que en tant qu'artiste, Faulkner peut-être n'a pas articulé de discours politique. Enfin, je veux dire, on peut pas tout faire. Et en l'occurrence, son talent littéraire, c'était déjà énorme. Et après, effectivement, là, il y a sûrement beaucoup d'inconscient social de toute façon qui a percolé dans un personnage aussi. Prolixe et aussi créateur que Faulkner.
Emmanuel Guattari, vous avez choisi de clore cette nuit avec Allen Ginsberg. En 1996, il était l'invité d'Alain Weinstein dans Du jour au lendemain à l'occasion de l'édition en français de Cosmopolitan Greetings, poème 1986-1992, et de la réédition de son journal de la période 1952-1962. Attention, cette émission commence par un bombardement façon Ginsberg.
Oui, alors ben, je ne sais pas si ce sera une surprise pour les auditeurs, c'est aussi le cadeau de la fin de nuit, c'est ce magnifique poème de Ginsberg, dit par Ginsberg, qui est un voilà que moi j'étais très contente que l'on trouve dans les archives. Et Ginsberg, c'est une littérature américaine, évidemment qu'on peut pas, qui n'a rien à voir avec Faulkner, hein, mais c'est un formidable poète. Et là, il est très agréable de l'entendre parler aussi. C'est un Ginsberg un petit peu vieillissant, hein, qui parle ici de façon assez facétieuse, d'ailleurs.
Peu de temps avant sa mort.
Oui, ouais, il parle de son quotidien de façon très facétieuse, sur comment il prend soin de lui maintenant. Voilà. Et c'est évidemment... Un très grand esprit. Il est remarquablement intelligent, tout ce qu'il a à dire. Et dans cette émission, ça recoupe aussi cette question de la littérature. Parce que de la Beat Generation, on a dit que c'était parce qu'elle empruntait à l'oralité qu'elle n'était pas intellectuelle. Et là, il réaffirme que le programme intellectuel de la Beat Generation, c'était justement de ne pas répéter la littérature du siècle précédent. Et que ça, c'était leur programme intellectuel. Donc, voilà, je trouve que c'est très intéressant d'entendre parler. En plus, dans cette émission, ils parlent en français. C'est une courtoisie vraiment remarquable qu'il nous fait. Et puis,
il y a à ses côtés Jean-Jacques Lebel, qui fait office de traducteur, même si Ginsberg parle très bien français. Ginsberg reprend Lebel autour de la traduction d'Armageddon. Ils font une sorte de numéro, tous les deux.
Oui, mais je pense que c'est effectivement une émission très libre. Les auditeurs ont l'occasion de le vérifier. C'est vrai que ça en fait une émission rafraîchissante pour cette fin de nuit. Voilà.
Et en même temps, dans cette émission, il est beaucoup question des rêves et de la mort.
Oui, chez un Ginsberg vieillissant et qui a vu mourir beaucoup de ses amis aussi, hein, évidemment, et en pleine période du sida en plus, de toute façon. Ce qui est, enfin, on laisse la surprise aux auditeurs, mais ce qui est vraiment frappant, c'est la résonance du poème qu'il va dire avec notre actualité immédiate.
Ginsberg parle de la poésie, de l'importance de la lire plus que de la commenter. La poésie comme miroir pour le lecteur, comme moyen d'éveiller sa pensée. Êtes-vous une lectrice de poésie ?
Oui, je suis une lectrice de poésie. J'ai beaucoup lu de poésie quand j'étais, enfin, autrefois. Et j'en lis encore aujourd'hui, moins qu'avant. Mais oui, je suis très sensible à la poésie. Et elle a des zones d'intensité dont moi j'ai besoin. Et elle demande quand même de dépasser l'idée que c'est une littérature à part. Ça m'ennuie beaucoup, ça, vis-à-vis de la... Enfin, ça, je crois que ça nuit beaucoup à la poésie, de même la façon dont elle est rangée parfois dans les librairies. Et je veux dire, l'idée que c'est une espèce de sanctuaire comme ça, d'expression inaccessible, difficile, hermétique. Et j'aimerais beaucoup qu'on décloisonne parce que... Et j'essaye de le faire dans certains livres. D'ailleurs, j'avais écrit un livre qui s'appelle Ciel de Loire, dans lequel j'ai pris des libertés vis-à-vis de la forme parce que la poésie n'est... Je pense qu'elle a le droit de Elle peut être lue par tous et elle a vraiment ce droit à être lue par tous parce que... Et j'en lis encore aujourd'hui, oui, je ferai volontiers la publicité à un jeune poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Borde et qui a d'ailleurs reçu un prix, qui s'appelle le prix Vildrac, pour son ouvrage qui s'appelle « Le logis des passants de peu de bien ».
Dans cette émission, Lebel présente son festival Polyphonix, qu'il avait créé en 1979, dont les trois grands principes sont, premièrement, pas de nationalisme, inviter des artistes du monde entier. Deuxièmement, le nomadisme, n'être attaché à aucun lieu, aucune institution. Troisièmement, pas de cloisonnement des arts, mélanger toutes les techniques d'expression. Félix Guattari disait « Polyphonix est une des survivances miraculeuses et atypiques de mai 68 ». Lebel, lui, refuse d'y voir un truc d'ancien combattant.
Il a raison, parce que dire la poésie, c'est essentiel. La lire silencieusement, c'est une chose, mais la dire, c'est... Il y a un très beau festival à Montreuil aussi de textes lus qui s'appelle le festival Vox, chaque printemps, qui est organisé par la librairie Folie d'encre et qui est formidable parce qu'un certain nombre, les libraires eux-mêmes, et puis un certain nombre d'écrivains, d'auteurs viennent et lisent dans la rue. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a aussi des lectures dans le noir. On a toutes sortes de sensations de lecture à voix haute. Et il me reste de l'enfance ce très grand bonheur d'entendre lire les textes.
Comment vous y êtes-vous prise avec cet héritage de mai 68 et de son après, qui dans votre cas était en plus un héritage familial ?
Ben, si vous voulez, alors mai 68, moi je me souviens très très bien enfin j'étais petite, hein, donc je n'ai pas connu mai 68 comme une jeune femme, hein, je l'ai connu vraiment comme une petite enfant. Alors, ce qui était vraiment rigolo pour nous, c'est que la Borde était déjà une espèce de greffe très volontariste, d'une certaine modernité quand même intellectuelle, au plein milieu de la campagne du Loir-et-Cher. Et lorsque mai 68 est arrivé, il y a eu en plus une espèce d'irruption d'une toute nouvelle modernité, une modernité dans les mœurs, évidemment, mais quand on est enfant, ça c'est quand même un domaine auquel on n'est pas encore, pour lequel on n'est pas très concerné, mais vestimentaire, de cheveux, de chevelure, de musique, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je pense que la littérature américaine m'a fait une telle impression, c'est qu'il y a eu aussi à cette époque-là l'irruption du rock. Et je sais pas si ça fait partie des morceaux qu'on a choisis, mais j'étais très impressionnée par Janis Joplin, qui était une femme, et quelle femme, hein, quelle jeune femme audacieuse. Et je me souviens que cette musique américaine qui faisait irruption en province, dans les petites villes et les campagnes très assez reculées, c'était spectaculaire. Le contraste était formidable. Et pour nous, les États-Unis, et pour certains, l'Angleterre, c'était vraiment un ailleurs très, très enviable.
Dans vos trois premiers livres, votre père apparaît plusieurs fois d'une manière plus ou moins fantomatique, mais pas dans Victoria Bretagne, votre dernier roman.
Sans doute parce que Victoria Bretagne, c'est plutôt une fiction. Et sans doute, Alors, est-ce que je réponds à la première partie de la question ou à la deuxième? Moi, j'ai beaucoup d'affection pour mon père, je l'ai dit ailleurs, hein, c'est quelqu'un à qui j'ai donné une place dans mes livres, effectivement. Toujours, soit sous forme de fantôme, il y a toujours une forme de visite ou de présence.
Bienveillante.
Voilà. Oui, parfois je joue un peu avec son personnage. Voilà, mais oui, j'avais vraiment une relation d'amitié avec mon père et voilà, donc j'ai ce plaisir de pouvoir l'animer un peu et l'incarner un peu dans mes livres. Et mes livres n'ont rien à voir avec son œuvre. Donc, je prends des libertés par rapport au personnage, au grand penseur qu'il a été.
Mais dans Victoria Bretagne, votre père ne figure pas, mais il est néanmoins question de l'amour d'un père pour sa fille, son trésor, sa fierté.
Ah oui, alors peut-être qu'il faut qu'on dise ce que c'est que Victoria Bretagne. Victoria Bretagne, c'est un conte fantastique et amoureux que j'ai situé dans une petite ville de province. C'est dans mon livre précédent, j'avais parlé de la très grande ville de New York. Justement, mais il me semble que en province et dans la campagne, les passions se déploient autrement et ça depuis toujours et encore aujourd'hui. Donc c'est la relation mystérieuse entre une jeune femme balafrée qui avec une jeune fille qu'elle fascine, une jeune admiratrice silencieuse. Et le mystère c'est que et le fantastique de cette histoire, ce serait qu'on ne sait jamais si Victoria Bretagne, donc c'est le nom de cette jeune femme balafrée, a existé telle que la décrit la narratrice.
Emmanuel Guattari, nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Germaine Tillon ou Le combat pour la vérité dans Mémoire du siècle par Georges Walter en 1987, Les discours de l'histoire, aujourd'hui l'historien avec Georges Duby par Raymond Bellour et Philippe Venot en 1978, puis le second des entretiens avec Maurice Edgar Coindreau sur William Faulkner proposé par Christian Giudicelli en 1971, et pour finir, Allen Ginsberg dans Du jour au lendemain d'Alain Weinstein en 1996. Emmanuel Guattari, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.